Acte 2, où notre héroïne découvre la fragilité de ce qu'Euclide qualifiait « évidence ». C'était la dernière heure douce de la matinée, avant que le soleil n'assomme même les esprits les plus retors. Marchant d'un pas errant, perdue dans ses pensées, elle se retrouva bientôt à l'entrée d'un somptueux jardin public. Une pelouse fraîche et parsemée de fleurs odoriférantes s'offrait à elle. Il ne pouvait y avoir d'endroit plus propice à la sieste. À peine assise, X remarqua qu'un homme en sandales, tout vêtu de bure, déambulait sur la pelouse. Cet homme étrange se baissait de-ci de-là pour ramasser un brin d'herbe ou une fleur. Il ne semblait pas avoir remarqué la présence de la jeune femme. C'est cette dernière qui rompit en premier le silence.
« Bonjour !»«
Bien le bonjour, mademoiselle. Je n'ai pas l'habitude de voir du monde. À vrai dire, c'est pour cela que je viens jusqu'ici. Permettez-moi de me présenter. Je suis Saint Thomas d'Aquin. Homme de foi, appelez-moi Tom. »«
Homme de foi, dites-vous ? C'est drôle, car je viens de rencontrer un homme de science, dénommé Euclide, et je pensais que cette contrée avait abandonné la croyance au profit de la pensée scientifique. »«
Que dites-vous là, mademoiselle ? Laissez-moi vous expliquer à quoi j'emploie mon temps. » J'appelle Dieu un être infini, tout-puissant et omniscient, créateur de toutes les choses. J'étudie son existence, sur le plan métaphysique et philosophique, notamment en ce qui concerne la morale.
La morale, Dieu, vous parlez donc bien de croyance. Ça n'a rien à voir avec la science.
Et pourtant, cet homme que vous semblez admirer base toute sa science sur des croyances.
Des croyances ? Je comprends pas ce que vous voulez dire. Les théorèmes d'Euclide sont vrais, car ils sont démontrés.
Et que n'est-il de ses axiomes et postulats ? Que vous a-t-il dit pour les justifier ?
Il m'a dit qu'il admettait ses axiomes et principes tant ils sont évidents et tant leur clarté n'échappe à nul être en pensant.
Et c'est bien là que repose tout le problème de la pensée d'Euclide.
Comment ça ?
Voyez-vous, à chaque fois qu'Euclide fait appel à l'évidence pour justifier une propriété, il tombe dans le domaine de la croyance. Qu'est-ce qu'une croyance, si ce n'est une proposition dont la véracité ne nous laisse aucune place au doute, bien qu'elle puisse être vraie comme fausse ?
Mais une évidence, au contraire, c'est une proposition qui est vraie, mais dont on omet la justification, car elle ne fait aucun doute.
Très bien, j'accepte cette définition.
Mais
alors, comment Euclide peut-il savoir que les propositions qu'il dit évidentes sont vraies ? En réalité, le seul moyen pour un mathématicien d'établir la véracité d'une proposition est la démonstration. Le recours à l'évidence n'étant pas un argument logique, les axiomes d'Euclide ne reposent sur aucune nécessité logique.
C'est-à-dire ?
En se contentant d'invoquer l'évidence de ses actions, Euclide sort de la démarche purement scientifique. Il ne fait qu'exprimer une croyance, en la renforçant par le fait qu'elle soit intuitive. Vous voyez donc que dans sa science, Euclide fait en réalité appel, en le dissimulant, à la notion de croyance. C'est d'autant plus vrai dans l'énoncé de ses postulats, pour lesquels il ne sait même pas s'ils sont indispensables en tant qu'action ou démontrables. Dès lors, comment pouvez-vous affirmer que sa démarche est supérieure, de quelque façon que ce soit, à la démarche du théologien que je suis, qui base son étude sur la croyance de l'existence de Dieu?
Attendez, je vois pas de quelle manière le fait de pouvoir tracer une unique ligne droite entre deux points, une fois ces deux concepts établis, serait une croyance, ni la manière dont on pourrait les contredire.
Eh bien, laissez-moi vous le montrer. Imaginez que vous regardez le monde à travers d'un œil de bœuf, et considérez deux points situés près du bord de votre vision, reliés par une ligne droite. Si vous restez immobile, vous êtes convaincu qu'il existe une unique ligne passant par ces deux points.
Oui.
Maintenant, imaginez ce que vous apercevrez en tournant légèrement la tête. La ligne droite est déformée et devient courbe. Il est possible de tracer une deuxième ligne droite entre ces deux points, distante de la précédente. Si vous concevez un être dont l'unique vision du monde serait de cette forme, il serait étonnant que celui-ci ne remette en cause votre axiome en le qualifiant de croyance, ne pensez-vous pas ?
Je comprends l'exemple que vous me donnez. Et pourtant, il y a une part de moi qui continue de considérer que les axiomes mathématiques ont plus de légitimité d'un point de vue scientifique qu'une pure croyance. Je vois pas en quoi l'existence d'un être tout-puissant et tout-connaissant serait nécessaire à l'existence du monde.
Mais je ne dis pas que cette existence est nécessaire. Je dis seulement que j'y crois jusqu'au plus profond de mon être. Et je considère comme ma mission d'amener les gens à ressentir ce sentiment de quiétude et d'humilité face à la grandeur de Dieu. En un sens, je suis plus franc qu'Euclide, qui cache sa croyance sur une apparence de légitimité scientifique. Laissez-moi essayer de vous faire comprendre ce que je ressens. Observez la nature qui vous entoure. La perfection de cette fleur, par exemple. Sa rondeur, son parfum, ses couleurs raffinées. tant de choses qui nous émerveillent à la fois par leur simplicité et leur infinie complexité. Est-il si absurde de croire qu'un être a créé toutes ces choses, et que pour les avoir créées, un tel être doit être de loin supérieur à nous ?
Votre croyance n'est pas son fondement, je reconnais. Mais pourtant, la scientifique en moi me met en garde contre cette idée.
Outre le fait que les évidences d'Euclide sont une sorte de croyance, je suis convaincu qu'avec les sciences, avec la pure logique, on n'arrivera jamais à expliquer l'infinie richesse et complexité de la nature. Comment pouvez-vous imaginer une explication purement rationnelle et logique de notre univers, ou même simplement de cette fleur ? L'approche des scientifiques est certes louable, mais je crains qu'elle ne permette pas la compréhension de toute chose. C'est pourquoi j'étudie la théologie.
Me voilà troublé d'avoir rencontré deux hommes dont les méthodes se ressemblent et qui néanmoins provoquent en moi des réactions bien différentes, que j'aurais d'ailleurs du mal à formuler.
Mademoiselle, vous voilà plongée en plein dans la réflexion philosophique et scientifique. Ne fouillez pas le questionnement et vous finirez par trouver une réponse, bien qu'elle ne soit sans doute pas celle que vous espériez. Et n'oubliez pas, il n'y a rien de plus sain pour l'esprit qu'une promenade dans la nature. Je vous souhaite une bonne journée.
Sur ces paroles, il s'éloigna pour regagner sa contemplation des fleurs.